France Culture.
Les nuits de France Culture.
Dans les années 60, France Culture proposait une émission dans laquelle l'invité présentait aux auditeurs son livre de chevet ou l'un des livres auxquels il était tout particulièrement attaché. En 1967, Vladimir Jankélévitch s'était prêté à cet exercice. Il avait choisi de présenter et de lire des extraits d'un court roman de l'écrivain russe Léonid Andreïev, Les Sept Pendus. Un livre qui avait depuis toujours occupé une place importante dans sa famille et que ses parents lisaient avec émotion. Si l'œuvre de son auteur, Léonid Andreïev, était en France très méconnue en 1967, elle est sans doute aujourd'hui plus accessible, notamment Les Sept Pendus. Nous allons entendre maintenant le premier des 9 épisodes dans lesquels Vladimir Jankélévitch présentait ce livre. On notera que les musiques qui accompagnaient les génériques de début et de fin de ces émissions étaient interprétées par Vladimir Jankélévitch lui-même. Il s'agissait de « La mort rôde » de Gabriel Dupont et d'un extrait des « Goyescas » du compositeur espagnol Enrique Granados. Le livre de chevet, Vladimir Jankélévitch présente « Les Sept Pendus » de Léonid Andreïev, premier des 9 épisodes, diffusé le 29 mai 1967 sur France Culture.
L'ORTF vous présente le livre de chevet de Vladimir Jankélévitch, qui vous lira des extraits des Sept Pendus de Léonid Andreïev.
Thank you.
Sans doute est-il téméraire d'interrompre l'activité d'un philosophe comme Vladimir Jankélévitch pour le questionner au sujet des livres qui pourraient être à proprement parler ses livres de chevet. Vladimir Jankélévitch a reçu un flambeau des mains de l'un des plus grands philosophes du siècle, Henri Bergson, et son œuvre, aussi dense que pathétique, comporte aussi bien des analyses de la mauvaise conscience que des ouvrages sur le mal, qu'un traité des vertus et d'admirables études sur la musique. Plus récemment, et c'est même en cette année 1967, Jankélévitch nous a apporté une extraordinaire méditation sur la mort. Vladimir Jankélévitch, je vais vous poser directement la question. Est-ce que vous avez un ou des livres d'échevet ?
Après tout ce que vous venez de dire, je suis un peu embarrassé pour répondre, et confus en même temps. D'abord parce que, en vérité, je n'ai pas vraiment des livres de chevet. Je suis comme beaucoup de professeurs, pour qui la lecture est une occupation professionnelle, une besogne quotidienne, et malheureusement, mes capacités de lecture sont absorbées en grande partie par la lecture de travaux professionnels qui n'ont rien d'attrayant. En dehors de cela, je dois dire que, étant donné que j'écris beaucoup de livres, mes lectures sont souvent des consultations. Je lis les livres dont j'ai besoin pour un ouvrage donné. Enfin, il n'en est pas moins vrai que pour la mort, j'ai vécu dans certaines lectures qui me sont chères, et même dans certaines musiques, car il me vient à l'idée que si je n'ai pas de livres de chevet, par contre, j'ai des musiques de chevet.
Ah bien oui, en effet, là je vois sur votre piano un cahier d'œuvres du compositeur Gabriel Dupont que vous mentionnez d'ailleurs dans votre ouvrage sur la mort. Comment s'intitule la pièce que nous avons eu le plaisir d'entendre dès le début de cette émission ?
La mort rôde, c'est un extrait des ordonnantes. Je crois que je le cite dans mon livre, et en effet c'est une musique très poignante, même bouleversante, avec laquelle j'ai beaucoup vécu. Les ordonnantes sont un journal de maladie. Gabriel Dupont, mort je crois tuberculeux à 30 ans, a raconté sa maladie dans ses pages qui sont des prophétiques, qui sont tout à fait la musique d'avant-garde, et ont toujours évoqué pour moi en quelque sorte l'ange de la mort qui bat des ailes dans la chambre de l'agonisante. L'ange est entré par la fenêtre ouverte et rôde autour de l'île du Mélisande. Il me semble qu'il y a une parenté profonde entre ces pages saisissantes et le cinquième acte de Pédéas, de Maeterlinck et de Debussy.
Je crois savoir qu'il y a un conte d'Andreïev qui vous a particulièrement frappé dans votre enfance.
C'est vrai, oui. Et finalement, en y réfléchissant avec vous, il me semble que j'ai quand même un livre de chevet. Et c'est non seulement un livre de chevet, mais en même temps un livre qui m'a beaucoup influencé pour ce livre de la mort, et j'en cite même souvent des extraits, j'en ai traduit un petit fragment à la fin du livre. Ce livre, c'est Le récit des sept pendus, de Leonid Andreïev, grand écrivain très peu connu en France, qu'on va, je crois, rééditer cette année, et qui avait connu la persécution, qui est mort en exil. Et ces pages sont très bouleversantes. Elles sont liées pour moi à des souvenirs d'enfance. Je me rappelle que ma mère pleurait en les lisant, et je me demandais quel était ce livre mystérieux que mes parents lisaient avec tant d'émotion, car Andreïev a beaucoup influencé les générations des Russes entre les deux guerres, aux alentours de la révolution de 1905. Et ces sanglots de ma mère sont restés dans ma mémoire. C'est en effet un livre bouleversant, et c'est celui que je veux me permettre de vous présenter, dont je lirai quelques extraits. Le récit des sept pendus est, comme l'indique le titre de ce petit roman, le récit de la marche à la mort de sept condamnés à mort, cinq révolutionnaires et deux condamnés de droit commun. Un gouverneur de l'époque du tsar a été informé par la police qu'un attentat se préparait contre lui. La police a arrêté les révolutionnaires. Les révolutionnaires sont jugés et, naturellement, condamnés à mort. Leonid Andreïev nous présente successivement les cinq révolutionnaires dans des raccourcis saisissants, des portraits magnifiques, et puis les deux condamnés de droit commun, un Estonien nommé Ivan Jansson, qui a assassiné son maître, je crois, et qui est un paysan abruti et presque illettré, et un Tzigane nommé Mishka, qui est un vulgaire bandit, un brigand, et qui vont mourir avec les cinq condamnés à mort. Les cinq condamnés à mort dont nous suivons le procès très brièvement, et ensuite les derniers moments, peu à peu amenuisés par la marche inéluctable à la potence, comme chez Tolstoï, chez Dostoïevski, dans L'Idiot, sont Serge Golovin, Moussia, Werner, Vassili Kachirine et Tania Kovalchuk. Il y a des portraits que je vais vous présenter à la suite d'Andreïev, de ces révolutionnaires. J'aurais dû peut-être dire en débutant que ce récit est dédié à Tolstoï, que le traducteur a un peu oublié. Et c'est important parce que c'est en effet à la mort d'Ivan Ilyitch ou à tous les récits sur la mort que Andreïev se rattache le plus. Il avait un culte pour Tolstoï qui ne nous lui rendait pas toujours d'ailleurs. Et je vais vous le lire dans une traduction, une vieille traduction un peu vieillie qui n'est pas mauvaise, de Serge Piersky, qui a besoin d'être complétée, qui est un peu approximative pour le goût d'aujourd'hui, mais qui reste bonne. On sait, on comprend la sublimité, le caractère bouleversant du récit à travers cette traduction. Serge Golovin, le premier accusé, est le plus jeune. L'accusé placé le plus près des juges au procès avait déclaré se nommer Serge Golovin, ancien officier, fils d'un colonel en retraite. Il était tout jeune, large d'épaules et si robuste que ni la prison ni l'attente de la mort certaine n'avaient pu ternir la coloration de ses joues et altérer l'expression de naïveté heureuse de ses yeux bleus. Tant que durèrent les débats, il tourmenta sa barbe blonde, rebroussaillée, dont il n'avait pas encore l'habitude, et regarda fixement la fenêtre, en fronçant les paupières. On était à la fin de l'hiver, à l'époque où, parmi les tourmentes de neige et des journées de froid morne, le printemps proche envoie parfois, en précurseur, un jour lumineux et tiède, ou même une seule heure, mais si passionnément jeune et étincelante que les moineaux dans la rue deviennent fous de joie et que les hommes semblent enivrés. À travers la fenêtre d'en haut, sale encore de la poussière de l'été précédent, on voyait un ciel très bizarre et très beau. Au premier coup d'œil, il semblait d'un gris laiteux et trouble, puis, à le regarder mieux, il apparaissait avec des taches d'azur, d'un bleu de plus en plus profond, pur et infini. Et parce qu'il ne se dévoilait pas brusquement, mais se drapait pudiquement dans le voile transparent des nuages, il devenait cher tel une fiancée. Serge Golovin regardait le ciel, tiraillait sa moustache, clignait tantôt l'un, tantôt l'autre de ses yeux aux longs cils touffus, et réfléchissait profondément, on ne sait à quoi. Une fois même, il agita vivement ses doigts. Une expression de joie naïve parut sur son visage, mais il regarda autour de lui, et sa joie s'éteignit comme un tison sur lequel on a posé le pied. Presque instantanément, presque sans transition, la rougeur des joues fit place à une blancheur cadavérique. Un fin cheveu, arraché avec douleur, fut serré comme dans un étau par des doigts aux extrémités exsangues. Mais la joie de la vie et du printemps était encore plus forte. Le deuxième condamné s'appelle Moussia. C'est une jeune fille, belle sans doute, dont on ne sait rien. Elle est une inconnue. Et c'était la deuxième révolutionnaire et qui a joué un rôle très grand dans la confection des bombes, je crois, et dans l'attentat préparé contre le gouverneur. C'est vers le ciel aussi que regardait une jeune fille inconnue, surnommée Moussia. Elle était plus jeune que Golovin, mais semblait être son aînée par sa gravité, le sérieux de ses yeux loyaux et fiers. Seul le cou délicat et les bras minces décelaient ce quelque chose d'insaisissable qui est la jeunesse elle-même, et qui résonnait si distinctement dans sa voix pure, harmonieuse, pareille à un instrument de prix et d'un accord parfait dans chaque mot. Moussia était très pâle, de cette blancheur passionnée, particulière à ceux qui brûlent d'un feu intérieur, radieux et puissant. Elle ne remuait presque pas. De temps à autre, seulement, d'un geste à peine visible, elle tâtait au troisième doigt de sa main droite une trace profonde, la trace d'une bague, récemment enlevée. Elle regardait le ciel avec calme et indifférence, simplement parce que tout dans cette salle banale et malpropre lui était hostile, et semblait scruter son regard. Ce coin de ciel bleu était la seule chose pure et vraie qu'elle put regarder avec confiance. Les juges avaient pitié de Serge Golovin et haïssaient Moussia.
C'était Le Livre de Chevet de Vladimir Jankélévitch, une émission de Jean-Vincent Bréchignac. Aujourd'hui, Vladimir Jankélévitch vous a lu des extraits du livre de Léonid Andreïev, Les Sept Pendus, et vous a interprété au piano La Mort Rôde de Gabriel Dupont et un extrait de Goyescas de Granados. Assistante de réalisation, Gilberte Samba.
venez d'entendre le premier des 9 épisodes du livre de chevet de Vladimir Jankélévitch. Première diffusion le 29 mai 1967 sur France Culture. À suivre.